Sud Radio, c'est ça la France.
Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ça la France, l'émission qui met en avant les talents français. Et ça tombe bien, le salon Vivatech a fermé ses portes hier à Paris, à Porte de Versailles, après une 4e édition couronnée de succès. Alors c'est un rendez-vous mondial devenu incontournable pour les start-up, pour les leaders qui innovent. Les deux premières journées en général sont réservées aux professionnels, mais le samedi, il est réservé au public et c'est l'occasion d'aller s'immerger dans les technologies du futur. Alors tout à l'heure, nous allons vous faire découvrir une entreprise qui a su révolutionner l'un des moyens de transport les plus utilisé au monde, l'ascenseur. Mais tout de suite, je vous propose d'en savoir davantage sur cette France digitale, cette France des startups avec notre premier invité.
Sud Radio, c'est ça la France qui innove et la French Tech.
Bonjour Frédéric Mazella.
Bonjour.
Alors vous êtes le fondateur de BlaBlaCar, que tout le monde connaît, coprésident également de la France digitale. Donc Paris a été pendant près de trois jours, la capitale des technologies. Le salon Vivatech, il est important pour la France?
Oui, c'est important, c'est à la fois une vitrine et aussi un foisonnement de technologies et de connexions entre nos sociétés du digital notamment, mais pas que, enfin des nouvelles technologies. Et donc c'est une vitrine internationale, on a des gens qui viennent de partout pour voir justement ce qui émane de la France, de Paris et aussi de l'Europe. Enfin, et puis on a beaucoup d'exposants internationaux qui justement aussi viennent montrer un petit peu tout ce qu'ils savent faire à cette occasion-là. Donc c'est très très important pour l'écosystème et pour la visibilité de la France dans cet écosystème digital.
C'est l'occasion de montrer les technologies dans différents domaines et effectivement de les exposer au monde entier. Vous êtes, je le disais à l'instant, coprésident de la France digitale. Est-ce que vous pouvez nous rappeler justement le rôle de la France digitale? À quoi ça sert?
Alors, France digitale, c'est une association qui regroupe 1400 startups. Donc, c'est la plus grande association de startups en Europe. Et son rôle, c'est de synthétiser, comprendre et faire évoluer l'écosystème, de grandir avec l'écosystème, avec le développement phénoménal que l'on voit ces dernières années, l'écosystème technologique. Donc, c'est réussir à accompagner les startups dans leur croissance, parfois leur hyper-croissance, vers une phase de scale-up et puis ensuite vers des phases plus matures de grandes sociétés. Parce qu'en fait, c'est pas très simple ce parcours-là de grandir, de passer de tout petit à très grand. Et pourtant, c'est ce qu'il faut faire en un nombre record d'années généralement, notamment pour les nouvelles sociétés de la technologie, puisque on voit bien, d'ailleurs on les connaît, sur tous les exemples étrangers, il y a beaucoup de sociétés américaines ou chinoises qui passent très très vite de la phase de toute petite société à très grande société. Et en fait, cette phase-là n'est pas très simple. Et France Digitale accompagne.
C'est un écosystème, c'est sa porteur.
Oui, c'est exactement. C'est-à-dire que ça permet à tous les fondateurs de sociétés de discuter entre eux pour se parler de leur situation et résoudre les problèmes ensemble. Ça permet aussi à France Digitale de synthétiser les besoins de tout l'écosystème tech vis-à-vis des interlocuteurs, notamment des institutions publiques, pour pouvoir prendre les bonnes décisions et encourager la croissance de cet écosystème-là.
Alors comment faire si on est une jeune entreprise, une jeune start-up, qu'on souhaite rejoindre justement l'univers de la France digitale, la tech? Comment ça se passe concrètement?
France Digital, c'est une association, donc c'est très facile à rejoindre. Il y a un système de petites cotisations pour justement bénéficier.
Il y a des critères de sélection, j'imagine.
France Digital.
Non, il n'y a pas un jury.
En général, c'est des petites sociétés en phase de démarrage et qui sont généralement, vu que c'est France Digitale, ce sont des sociétés qui ont un angle digital ou numérique assez prononcé. Donc il y a plein de domaines. Ça peut être ce qu'on appelle la deep tech, ça peut être l'intelligence artificielle, ça peut être la blockchain, ça peut être évidemment tout un tas d'autres technologies plutôt traditionnelles maintenant, c'est-à-dire les applications mobiles, évidemment les sites internet et tout ce qui va toucher aussi à l'hébergement, tout ce qui fait marcher les métiers du digital. En fait, on ne se rend pas compte, mais des métiers du digital aujourd'hui, il y en a plus d'une centaine.
Il y en a partout, dans tous les secteurs d'activité quasiment.
Exactement. Donc c'est et très concrètement, c'est des métiers qui n'existaient pas il y a 15-20 ans. Ouais. Aujourd'hui, on a toute une palette d'experts du digital à tout un tas de postes et de métiers qu'on n'imaginait pas avant.
Alors, la France Digitale, c'est une association qui est très ambitieuse, qui souhaite devenir le principal référent tech en Europe. Alors, quels sont nos atouts pour y arriver?
Voilà, déjà, c'est déjà la plus grande association de start-up en Europe, hein, puisque 1400 start-up, ça commence à faire beaucoup. Donc, France Digital est déjà l'association de start-up la plus grande en Europe. Après, nos atouts, c'est qu'on a un écosystème qui grandit bien. On a de plus en plus de start-up, mais aussi de scale-up. Alors, ce qu'on appelle les scale-up sont évidemment des sociétés plus avancées que les start-up. C'est la phase d'après, c'est-à-dire qu'une start-up, elle va rechercher à faire un produit ou un service qui va correspondre à un besoin et faire en sorte de trouver un modèle économique qui fonctionne. Et une fois qu'elle a trouvé cela, eh bien, elle a besoin de s'étendre très rapidement. Elle passe en phase de scaling, donc passage à l'échelle, si vous voulez. Et à ce moment-là, elle va lever des capitaux, recruter plein de gens. Et,
est-ce qu'on peut dire que c'est une phase d'accélération ? Quelque sorte.
Oui, c'est une phase d'accélération. C'est-à-dire que une start-up va chercher son modèle, son produit, son équilibre économique. Et une fois qu'elle a trouvé quelque chose qui fonctionne, là, il faut aller très très vite. Généralement, non seulement parce que vous êtes rarement le seul à avoir eu l'idée, donc en fait, il y a une sorte de compétition qui se crée entre les sociétés qui ont trouvé la recette. Mais en plus parce que l'équilibre économique global d'une société, notamment dans le digital, se fait par la portée qu'elle peut avoir et la couverture très souvent géographique, puisqu'il s'agit d'atteindre la couche dans laquelle fournir le service de manière additionnelle n'est plus un grand coût. C'est ce qu'on appelle le coût marginal proche de zéro. Ou zéro, c'est-à-dire que quand vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui utilise le même service, eh bien, vous pouvez à ce moment-là commencer à rentabiliser tous vos investissements en recherche et développement qui ont été faits initialement. Puisque ça coûte très très cher. Si vous voulez, les premiers qui utilisent un service digital, quelque part coûte très cher, parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de recherche qui a été investie, recherche et développement qui a été investi par la société pour faire marcher le service, et puis très peu d'utilisateurs. Donc en fait, il faut à ce moment-là passer à l'échelle et avoir beaucoup 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 de gens qui vont utiliser ce service-là pour commencer à rentrer dans une phase où on va être à l'équilibre puis bénéficiaire.
Et vous savez de quoi vous parlez avec Blablacar, hein, le succès de Blablacar. Vous êtes devenu une référence en tant que start-up française reconnue sur la scène européenne. Ça a été compliqué justement à installer Blablacar.
Ça a pris du temps parce que au-delà de la technologie, bon, qui fait qu'on est présent évidemment sur tous les téléphones mobiles et sur Internet, et puis que derrière on a des centaines de serveurs pour livrer justement le service. Donc technologiquement évidemment c'est compliqué, mais il y a aussi eu un phénoménal changement d'état d'esprit par rapport au covoiturage. Si vous voulez, quand on a commencé au tout début le covoiturage, c'était vu comme une activité plutôt marginale. Et l'enjeu, c'était de le passer dans la norme. Oui. Aujourd'hui, en France, c'est plus d'un jeune sur deux qui fait du covoiturage. On a 16 millions de Français qui sont inscrits, donc c'est un quart de la population. Enfin, ça commence à être
16 millions de Français, 16 millions de membres sur le réseau Blablacar.
16 millions de membres sur Blablacar, oui, en France. Après, c'est 75 millions de membres dans le monde, puisqu'on est dans 22 pays. Donc on s'est étendu justement dans plein de pays. Ben c'est ce qui fait le succès de Blablacar et c'est ce qui fait son assise aussi, puisque justement on n'est pas que français. Enfin, on est même peu français au final quand on voit 16 millions sur 75 millions d'inscrits. C'est ce qui fait justement que Blablacar peut avoir les moyens de ses ambitions et a marqué un petit peu justement le covoiturage sur plusieurs géographies.
Merci beaucoup Frédéric Mazella, je rappelle que vous êtes le fondateur de Blablacar, coprésident de la France Digitale. Merci pour votre témoignage.
Merci beaucoup.
Bonne journée. Au revoir.
Sud Radio, c'est ça la France.
Bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français consacrée au salon Vivatech, le salon des technologies. Il est temps de découvrir cette innovation dans le secteur des transports. On l'a dit comme ça parce que c'est quand même le moyen de transport le plus utilisé, le plus utilisé au monde, l'ascenseur, avec Jade Francine, cofondatrice de la start-up Womentain.
Sud Radio, c'est ça la France qui innove et la French Tech.
Bonjour Jade.
Bonjour.
Alors vous êtes cofondatrice, je le disais à l'instant, de la start-up Womentain qui se sert du numérique pour remettre les techniciens au centre de la gestion des ascenseurs.
Exactement. Alors pour faire un peu simple, aujourd'hui dans le monde de l'ascenseur, ceux qui sont un peu oubliés, ce sont finalement les techniciens. Ce sont eux qui sont au cœur de la prestation, mais ils sont loin du client, loin de la valeur qui est créée aussi financièrement. Et donc nous, on a utilisé la technologie pour les remettre au centre. Les remettre au centre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ils deviennent indépendants. Donc ça devient leur ascenseur. Donc évidemment, oui.
Il y a un vrai suivi du même ascenseur, quoi.
Exactement, c'est
ça. Alors qu'aujourd'hui, bon, c'est un secteur qui est présenté par 4 gros groupes. Il y a Otis, Schindler, je crois.
Oui. Thyssen.
Et il m'en manque un.
Et Koné. Voilà.
Bon, désormais, il y a WeMaintain.
Ouais.
Et donc eux se partagent.
Pas encore Mastodonte, quand même, mais oui, WeMaintain est sur le marché.
Enfin, en tout cas, il y a de la concurrence parce qu'ils se partagent 80% du marché, mais effectivement, ils font appel à des salariés qui tournent sur les ascenseurs. Et là, l'idée, c'est vraiment de recréer un vrai lien entre le technicien et le client, en fait.
Exactement. C'est ça. Donc nous, alors quand même, les techniciens ne sont pas envoyés dans la nature, pas du tout. Enfin, y a quand même, déjà, il y a beaucoup de critères pour rejoindre WeMaintain en tant que technicien, en tant que sous-traitant. Il faut un certain niveau d'expérience, au moins 10 ans. Il faut avoir l'état d'esprit de vouloir se mettre à son compte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde de l'ascenseur, il y a beaucoup de gens qui voulaient se mettre à leur compte et qui ne pouvaient pas pour deux raisons. La première, c'était l'assurance. Et nous, AXA nous a suivis. Et la deuxième raison, c'était qu'en fait, quand vous êtes tout seul, vous devez assurer un service H24 tous les jours parce que l'ascenseur, il faut s'en occuper à tout moment, en fait. Et en fait, un individu tout seul ne peut pas le faire. Donc nous, ce qu'on a créé, c'est justement un système de communauté. Si jamais le technicien dédié n'est pas disponible, c'est quelqu'un d'autre qui y va avec le même niveau d'expérience. C'est comme ça que ça marche. Et l'autre aspect, c'est aussi les gens. Enfin, je pense que ce n'est pas juste lié à l'ascenseur. Il y a vraiment une demande aujourd'hui de la part d'un peu tout le monde de retrouver du sens dans le travail, d'être motivé. Et ça vient aussi chez les métiers techniques où ils disent, moi, je vais être responsabilisé, c'est mon ascenseur, c'est mon client, je gère en fait, et j'ai pas envie, lorsque je dois commander une pièce détachée, de passer par 10 intermédiaires, parce que mon client, il va attendre, l'ascenseur, il va être en panne, je vais pouvoir faire ça de façon immédiate. Et donc nous, c'est là où le numérique arrive, c'est qu'on a créé une application mobile qui permet aux techniciens de pouvoir tout gérer, tout cet aspect administratif, commande, tout est géré en fait en temps réel, en direct.
Comment ils le gèrent concrètement? Est-ce que les ascenseurs sont dotés de capteurs? J'ai peut-être des bêtises, mais j'imagine que c'est suivi par une application, via son application.
Oui, alors ce qui se passe en fait, alors on parle beaucoup de capteurs, c'est un peu à la mode, notamment dans les startups et sur
les objets connectés.
Ouais, les objets connectés, tout ça, c'est très à la mode. Il ne faut pas oublier qu'en fait, les objets connectés, ça a du sens sur certains objets, mais pas sur tout. Et en fait, l'objet connecté ne va pas remplacer le travail manuel, du moins dans certains métiers, et notamment sur l'ascenseur. Même si vous avez un objet connecté qui envoie de l'information, il faudra toujours qu'il y ait un technicien qui intervienne. Donc ça ne vient pas remplacer. Et quand on regarde justement, toujours dans le milieu de l'ascenseur, désolé, je parle beaucoup d'ascenseur, ce qui est remplaçable...
Mais c'est votre domaine, c'est
pas,
normal.
Oui. Parce qu'on parle plus un peu de start-up aussi. Ce qui est remplaçable, ce qui n'est pas, en fait, 75% du travail du technicien n'est pas remplaçable par un capteur. Donc le capteur, c'est seulement 25%. C'est tout petit, en fait. Donc qu'est-ce que ça comprend, la technologie WeMaintain? Donc comme je disais, il y a une application métier qui organise... les tournées, qui envoient des alertes, qui permet également l'organisation des astreintes pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit disponible. Et également, maintenant, donc on a des capteurs, mais qui servent en fait vraiment aux techniciens pour lui envoyer de l'information en préventif. Ça a peu de valeur ajoutée en fait pour un client de recevoir de l'information. Le client, lui, ce qu'il veut, c'est justement ne pas entendre parler de l'ascenseur.
Et qui fonctionne.
Et il veut que ça fonctionne, c'est juste ça.
Jade Francine, cofondatrice de la start-up WeMaintain, merci beaucoup pour cet éclairage.
Merci
la start-up qui est en train de révolutionner le monde des ascenseurs. Ça fait plaisir, en plus une jeune femme qui a eu cette belle idée avec les deux cofondateurs. Peut-être rappeler leur nom?
Oui, bien sûr. Benoît Dupont et Tristan Fourreur. Benoît Dupont qui, lui, a passé 12 ans chez le major de l'ascenseur. C'est pour ça qu'on connaissait toutes ces problématiques. Et Tristan Fourreur qui est notre CTO. Donc lui, il est vraiment en charge de l'aspect numérique, de développer la plateforme, aussi bien côté client que côté technicien.
Merci encore pour votre témoignage.
Merci.
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter.
Bonjour Thibaut.
Bonjour Nathalie.
Alors, je crois savoir que cette semaine, vous allez nous parler du e-textile, ou bien, en d'autres mots, des vêtements connectés.
Et oui, Nathalie, vous savez que nos vêtements deviennent de plus en plus techniques et intelligents. Par exemple, aujourd'hui, on a le savoir-faire pour fabriquer un habit qui s'éclaire le soir quand vous allez faire du jogging, ou bien qui transmet de la chaleur quand il fait froid, ou même qui vous prévient quand un pickpocket tente de vous voler votre portefeuille ou votre smartphone dans votre poche arrière.
Ouais,
ça, c'est bien. Il y a une entreprise française qui est à la pointe de ce qui s'appelle la technologie de la connectivité pour textile. C'est l'entreprise Satab. et j'ai eu la chance de la découvrir lors du dernier salon Première Vision.
Alors, on rappelle que Première Vision, c'est vraiment le salon des matières et des tissus. C'est un salon qui est très important pour l'industrie de l'habillement.
Exactement. Et j'ai rencontré Marc, qui m'a parlé du ruban connecté Satam, qui ouvre toute une palette de possibilités pour l'habillement.
Alors, la gamme de rubans INF, In Aero Fabrics, c'est une gamme de solutions de rubans connectés développée par la société Satam, qui permet de faire du prototypage rapide. Ça signifie faire le lien entre le monde électronique et le monde textile.
Alors, par exemple, des exemples d'applications concrètes.
Alors, en exemple d'applications concrètes, on peut proposer aujourd'hui des solutions qui permettent de tenir des piles boutons, des batteries, qui permettent d'être reliées à un même ruban connecté, qui lui-même va, par exemple, supporter des LED qui vont être directement soudés sur ces mêmes rubans, ce qui permet d'éclairer un habit. Par exemple, pour aller faire du jogging la nuit, on pourrait se balader directement avec un ruban connecté éclairant.
On devient soi-même un système d'éclairage.
Alors, c'est ça. Aujourd'hui, on propose des kits qui permettent de prototyper très rapidement, sachant qu'après, on part sur un processus de développement. Pour une phase d'industrialisation, généralement avec des partenaires qui ont exprimé un besoin précis sur lequel justement on va répondre. Donc ça peut être des rubans connectés pour de l'éclairage, ça pourrait être du chauffage de certaines zones d'un t-shirt par exemple, ça peut être de l'envoi d'informations. On travaille également avec une start-up bordelaise qui s'appelle Genius Object, avec lesquelles on a développé un zip connecté permettant d'ouvrir et de fermer une veste. En sachant si oui ou non on est ouvert ou fermé, ce qui permet de capter de l'information.
Je suis très contente que vous nous parliez de Satam. C'est une très très belle entreprise. C'est un peu le champion de la rubanerie française. On peut dire ça, Thibaut ?
Oui, c'est ça.
Et je sais qu'elle tisse, elle tricote ses rubans, ses galons, ses sangles, ses cordons depuis plus d'un siècle. Donc c'est vraiment une entreprise patrimoniale.
Ouais, et puis comme on l'a vu, elle a su s'adapter au nouveau marché et tout en restant attachée à ses racines auvergnates. Car justement, j'ai demandé à Marc où était basée Satam.
Alors on est localisé à Saint-Just-Malmont, dans le 43, à côté de Saint-Étienne, et on est donc sur une fabrication donc de Haute-Loire, avec une fabrication française de rubans à la française.
Vous êtes les seuls en France à faire ça ?
En fait, on est aujourd'hui sur une exception mondiale. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui travaillent sur ces technologies de connectivité, mais par contre, on est les seuls à avoir des brevets en cours sur ce dossier, et surtout à avoir commencé à la mise en application de ces produits, notamment avec les pochettes Tintamarre, sur lesquelles on arrive à capter si oui ou non quelqu'un vous ouvre votre pochette dans le métro, par exemple, et vous envoie une alerte smartphone grâce à cette fameuse technologie avec Genius Object.
Donc un système de sécurité. Vous attendez quoi du salon ?
Alors ce salon, il nous permet, alors nous on y participe depuis de nombreuses années, il nous permet de rencontrer nos clients actuels, des nouveaux clients également, et puis de parler de nos dernières générations, nos dernières nouveautés, notamment cette gamme de produits INF.
Très bien. Et sinon, Satam, les autres produits, qu'est-ce que c'est ?
Alors, les autres produits de la gamme Satam, c'est 6 divisions. C'est du ruban pour la division fashion, donc la mode, également le consumer, la mercerie, tout ce qui est home pour la décoration de la maison. Et on a encore 3 autres divisions, l'industrie, le packaging et la santé, sur lequel on va positionner nos dernières innovations, les suivis des tendances, et de coupler potentiellement avec ces dernières technologies de rubans connectés.
Et bien voilà, quand vous verrez ces vêtements connectés envahir le marché, vous vous souviendrez qu'on en a parlé ici à C'est ça la France, grâce à Thibaut. Merci Thibaut.
À bientôt Nathalie.
Au revoir.
Au revoir.
Sud Radio, C'est ça la France.